La vie en question avec Christine et Marie-Lou aujourd'hui. Bonjour Christine.
Bonjour Marie-Lou, bonjour à tous.
Alors nous allons aujourd'hui vous entretenir d'une maladie de la peau qui n'est pas très répandue, mais qui concerne une personne sur 100. Alors le but de notre émission, c'est bien entendu ne pas effrayer les personnes, mais plutôt de faire passer un message. Si on souffre de cette maladie ou si on en a les symptômes, eh bien ne pas hésiter à consulter, ne pas hésiter à les décrire à son médecin, il faut consulter et surtout de ne pas s'isoler. Alors nous recevons aujourd'hui Madame Marie-France Brudapret. Bonjour.
Bonjour Marie-Lou.
Alors vous faites partie d'une association qui justement vient en aide à ces personnes qui souffrent de cette maladie. Vous êtes d'accord avec moi quand je dis maladie rare, hein?
Non. Justement, ce n'est pas une maladie rare. C'est une maladie orpheline, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de traitement qui permette de la guérir, donc curatif. Mais en revanche, c'est une maladie fréquente, puisqu'elle touche une personne sur 100, comme vous disiez. Donc, on n'est pas dans les valeurs des maladies rares.
Alors, une personne sur 100, c'est vrai que hors antenne, on disait, on connaît tous quelqu'un qui a une maladie de Verneuil.
Absolument.
Et c'est quand même caché, alors, ou pas?
C'est une maladie que l'on peut cacher. C'est pas que... Il n'est pas souhaitable de la cacher. Je pense qu'il n'y a aucune honte à avoir face à cette maladie. On aura l'occasion de revenir probablement sur les causes et les symptômes, absolument. Mais en revanche, c'est une maladie dont les gens ont honte. Voilà. Et notre objectif à l'association, depuis 21 ans que je l'ai créée, c'est de justement libérer la parole et permettre aux gens de ne pas en avoir peur, de ne pas avoir honte d'en parler.
Comment se manifeste cette maladie?
Alors, c'est une maladie qui se manifeste par on va simplifier la chose, par des abcès, des lésions, des kystes, qui sont profonds et qui donc font des ramifications, refont de nouveaux kystes. C'est un petit peu comme une toile d'araignée en 3D, hein, où on a donc des trajets fistuleux qui font que ça se ramifie
comme
et ça s'étend.
Comme une plante. Quelle grosseur ces abcès?
Alors, les abcès peuvent d'abord grossir très très vite. Des fois ça peut arriver qu'en une heure de temps vous vous retrouviez avec une petite balle de golf. Donc vraiment ça peut être très rapide.
C'est douloureux.
C'est la maladie qui a été reconnue comme étant la plus handicapante, invalidante et douloureuse dans les maladies dermatologiques.
Elle est pas belle ou parce qu'elle fait souffrir?
Parce qu'elle fait souffrir. En fait, je pense qu'on a tous eu un jour ou l'autre un bouton quelque part placé. On connaît la douleur quand il est prêt à se rompre. Là, imaginez que vous viviez avec vraiment plusieurs boutons qui sont à la fois profonds et en surface, parce que certains arrivent jusqu'à la surface, et qui ne seront pas. Parce qu'en fait, ces lésions-là ont une coque autour qui fait que, justement, on ne peut pas les percer. Ça n'a rien à voir avec de l'acné ou d'un simple abcès ou un furoncle. Non, non, ce sont des abcès qui ont une grosse coque tout autour. Et c'est la raison pour laquelle le geste qui est le plus mis en avant par les médecins, c'est l'intervention chirurgicale.
Est-ce que ce kyste est dû à un poil incarné, c'est-à-dire un poil qui n'arrive pas à sortir, à percer la peau?
Alors, dans ce cas-là, c'est un poil incarné. La maladie de Verneuil n'est pas un poil incarné, absolument pas.
C'est la racine qui est atteinte?
Alors, en fait, c'est pas la racine du poil. Le poil n'est pas en cause. C'est ce qu'on appelle l'infundibulum, d'accord? Donc, c'est ce qui... la poche dans laquelle le poil vient s'insérer. À la base, il y a donc des transmetteurs qui se font, on parle des cytokines, et en fait, on a un blocage à ce niveau-là, ce qui fait que la transmission se fait mal, et il y a une inflammation des glandes sudoripares qui sont rattachées à chaque poil, qui peuvent éventuellement grossir, s'infecter et ensuite suppurer. Voilà.
Ça nous est tous arrivé d'avoir justement, après avoir utilisé trop de déodorant, un petit peu sous les selles par exemple, on ressent quelque chose. Mais c'est ça multiplié par 100 ou par 1000 là?
Je dirais que c'est une inflammation liée au rasage, ce que vous décrivez. C'est un petit peu différent. Là, c'est vraiment des abcès conséquents. Vraiment conséquent. Je pense que vous pourriez imaginer avoir, pour le minimum, l'équivalent d'une cerise. Voilà, c'est la taille d'une cerise qui grossit et donc qui devient vraiment douloureuse.
Et c'est localisé sous les aisselles?
Voilà. Alors, il y a des localisations qui, justement, vont permettre de faire le diagnostic. Ces localisations Ce sont donc les aisselles, comme vous le signifiez. C'est la zone génitale, donc ce qu'on appelle les plis inguinaux. C'est l'endroit où la culotte, l'élastique de la culotte passe. C'est le pubis aussi, bien sûr. Ça peut être chez les femmes les grandes lèvres. Chez les hommes, ça peut être le fourreau de la verge et les testicules. Donc vraiment, la zone génitale est atteinte. Vous pouvez avoir aussi les fesses, voilà. Ensuite, il y a toute la zone au niveau de la poitrine.
Donc, ce sont des endroits qui ne se voient pas.
Tout ce qu'on peut cacher. Donc voilà, il y a la poitrine, donc autour de l'aréole des seins, entre les seins, sous les seins. Et vous pouvez avoir aussi derrière les oreilles. Et ensuite, d'une manière globale, ce sont vraiment les zones de prédilection favorisées disons que la maladie de Verneuil touche en premier. Mais on peut l'avoir absolument partout sur le corps. Quand les gens sont en stade sévère, il y a 3 stades de la maladie. Dans le stade sévère, ça peut atteindre tout l'organisme.
Alors, ça commence par un seul?
Ça peut être un seul, ou 2 ou 3. On ne sait pas pourquoi, en fait, et ça peut être sur une seule zone ou sur 2 zones à la fois. On n'est pas encore en mesure d'expliquer pourquoi il y a des gens qui sont atteints que sur une zone, et puis pourquoi tout d'un coup, et ils resteront toute leur vie sur une seule zone et à un stade léger, et pourquoi au contraire d'autres développent plusieurs zones, et puis voilà, et ça peut devenir s'aggraver.
Ce qui veut dire qu'au début, quand on a un seul ou deux, on ne fait pas trop attention.
Exactement.
On se dit, ben voilà, j'ai un petit abcès, je mets un peu de pommade antibiotique.
Est-ce que ça
passe et ça revient?
Alors, c'est aussi un des critères de diagnostic, c'est la récidive. Vous avez entièrement raison. Pour pouvoir diagnostiquer la maladie de Verneuil, il n'y a aucun examen autre que l'interrogatoire, ce qu'on appelle un diagnostic clinique.
Mais quand même, le médecin va tâter un peu pour voir qu'est-ce que c'est?
Même pas. C'est même pas nécessaire, honnêtement. C'est même pas utile. Je vous dis, il y a juste 3 questions. Est-ce qu'il vous arrive de faire des abcès? Oui, non. Est-ce que vous faites des abcès dans les zones de prédilection de la maladie de Verneuil, dont nous venons de parler? Est-ce que vous avez eu au moins 2 abcès dans l'une de ces zones durant les 6 derniers mois? Si vous répondez oui à ces 3 questions, vous avez 99,8% de risque que ce soit une maladie de Verneuil.
Mais on n'entend jamais quelqu'un dire que j'ai une maladie de Verneuil.
Non, parce que beaucoup ne la connaissent pas. Donc on est là pour en parler, c'est génial.
C'est le but de cette émission, on n'est pas là, comme on dit, pour effrayer.
Est-ce que c'est dû à une hygiène non appropriée ou trop.
Alors, je vous remercie de poser cette question, parce que c'est vraiment, il est temps de lever ce tabou sur l'hygiène par rapport à la maladie de Verneuil. Les gens qui sont atteints de la maladie de Verneuil auraient presque tendance à être trop, à avoir trop propre, parce que justement, vous comprenez bien que quand il y a un écoulement, que donc ça suppure, il y a des odeurs qui sont fort désagréables. Donc, c'est au contraire, l'hygiène aurait tendance à être peut-être plus importante que la normale.
Ça sent comme un abcès infecté.
Exactement, puisque ce sont des abcès infectés qui peuvent suppurer. Si ça se rompt, à ce moment-là, ça suppure, il y a des écoulements. Et vous comprenez que quand ça touche un enfant qui est par exemple à l'école, ou un jeune au lycée ou à la fac, ça devient extrêmement compliqué quand vous avez des abcès au niveau par exemple des zones génitales où vous êtes assis dessus. Ça devient compliqué de passer toute une journée sans pouvoir aller à la salle de bain. Et les enfants, les jeunes, ils n'osent pas en parler. Si je peux prendre 2 minutes sur le cas des enfants, qui pour moi est quelque chose qui mérite...
Vous n'avez pas posé la question, justement, les enfants.
L'âge, oui. Moi, je suis un peu étonnée.
Voilà. Alors, absolument. On a, et notamment à La Réunion, on a la puberté est très précoce. En fait, c'est une maladie qui arrive souvent au moment de la puberté. Mais on a des enfants qui ne sont pas encore pubères qui sont atteints. On a des petits qui ont 6-7 ans ici à La Réunion qui sont déjà malades. Donc quand ils ont des abcès au niveau des zones génitales, sur les fesses, au niveau donc des plis inguinaux où passent leur
pauvre slip. Marmaille.
Voilà, pauvre marmaille, exactement. Donc ces enfants, à cet âge-là, ils en parlent. Il n'y a pas de problème, ils vont parler. Et puis maman est souvent là pour la toilette. Donc elle va prendre conscience... Amener voir un pédiatre, un médecin.
Et
il ne faut surtout pas hésiter. Voilà, faut pas se poser la question. Quand on voit le moindre abcès qui arrive dans ces zones-là, il faut aller consulter.
Oui, mais on cherche toujours de bonnes excuses. Oui, je suis allée à la plage, j'ai été piquée, j'ai fait du sport.
J'espère bien que non. Mais bon, en tout cas, il faudra prendre un moment le temps.
La première réaction.
Oui, c'est vrai. Là où ça devient compliqué, c'est quand les jeunes ont une quinzaine d'années, 15, 17, 18 ans.
Déjà qu'ils sont mal dans leur peau à cet âge-là.
Exactement. Mais imaginez, donc un gamin qui se retrouve, garçon ou fille, hein, de toute façon, avec des lésions au niveau génital, des abcès. Déjà, il ne va pas aller montrer à maman ou à papa en lui disant « Tiens, regarde ce que j'ai ». imaginer aussi la réaction de papa ou maman. Mais qu'est-ce que tu as fait ? Où t'es allé choper ça encore ? Voilà. Donc, rien que pour pas avoir ce genre de réponse, beaucoup d'adolescents n'en parlent pas. C'est un âge où on n'a pas sa propre carte vitale.
Et la première question, alors est-ce que c'est important d'en parler tout de suite ?
Bien sûr.
Possible.
Ah oui, oui, le
est-ce
plus
que
tôt
ça
possible.
Ça peut avoir des répercussions sur l'évolution de la maladie ?
Ça pourrait. En effet, et notamment sur les traitements que l'on peut prendre. Il faut savoir que, par exemple, une réaction qui semble logique, ce serait de prendre un anti-inflammatoire, qui sont aujourd'hui en vente relativement libre, facilement. Vous avez une rage de dents, n'importe quoi. Vous pouvez aller à la pharmacie, vous demandez un anti-inflammatoire. Vous allez l'avoir, y compris de l'aspirine, qui est un anti-inflammatoire, un AINS. Eh bien, il faut savoir que le fait de prendre un anti-inflammatoire, ça va vous soulager sur le moment, mais par contre, ça va favoriser le côté infectieux et la propagation de la maladie. Donc, c'est vraiment très, très important pour nous de faire passer ce message. Maladie de Verneuil, pas du tout d'anti-inflammatoire.
Parce que cet ado de 15 ans, même s'il ne veut pas la faire voir à ses parents, ce qu'on peut comprendre, c'est difficile aussi de dire oh « ben, Maman, tu sais, il faudrait que j'aille voir un médecin. » Elle va dire « Mais pourquoi ?»
Exactement.
Suite,
ou alors,
donc,
ou...
ce n'est pas une démarche qu'il peut faire tout seul.
Absolument. Et même s'il est avec ses parents à l'occasion d'une consultation, même pour autre chose, s'il demande « Maman, est-ce que tu veux bien sortir ? Je voudrais parler avec le médecin. » Ça va être la même chose. La question va être la même. Donc, cette question justement de l'adolescence et de nous a vraiment interpellés et c'est pour ça qu'on avait mis en place cette campagne dont je vous parlais hors antenne de notre peluche vers nous qu'on met en place justement dans les lycées, les collèges pour justement permettre aux adolescents de voir sur le petit poignet de vers nous cette carte avec les images. Et surtout de leur dire, c'est une maladie d'origine probablement.
C'est pas une maladie honteuse.
Du tout, du tout. Parlez-en.
Ça, il faut le dire et le redire.
Absolument. Oui, et l'infirmière scolaire sera là pour les accompagner, leur donner de l'information s'ils en ont besoin et surtout les encourager. Donc nous, on fait aussi un travail vis-à-vis des infirmeries au niveau de tous les établissements scolaires pour pouvoir justement faire passer le message, ce n'est pas une maladie honteuse. Parlez-en, allez voir votre médecin.
Oui, parce qu'une question qu'on n'a pas posée, comment est-ce qu'on attrape ? Est-ce que c'est génétique, c'est-à-dire que c'est transmis d'un parent à l'enfant ? Est-ce qu'on l'attrape sur une chaise ? Est-ce que c'est contagieux ?
Excellente question, là encore. Ce n'est pas du tout une maladie contagieuse. Très, très important, ça, parce que vraiment, quand on a des abcès purulents, automatiquement, la réaction des gens,
c'est un rejet,
on ne veut pas toucher. Vous savez, avec l'association, on avait mené une enquête en 2016, je crois, et où les gens disaient qu'ils n'oseraient même pas faire la bise ou serrer la main de quelqu'un atteint de la maladie de Verneuil, donc quand ils voyaient des photos qu'on leur présentait. Donc, ça montre qu'il y a une mauvaise image hein, du fait que ce sont des lésions. Donc, non, ce n'est pas du tout contagieux. C'est une maladie, en effet, qui est probablement d'origine génétique. Et avec la loterie de la génétique, certains l'ont de façon spontanée, donc il n'y a personne dans leur famille. Mais il y a 42% des malades qui ont une forme familiale. Il faut savoir que donc, le jour où on a ce gène qui a été modifié chez vous, ben, à ce moment-là, vous pouvez le transmettre de façon autosomique dominante. Ça veut dire que 50% des enfants sont aussi bien garçons que filles susceptibles de pouvoir la développer.
Dans l'ensemble, il y a plus de femmes que d'hommes qui sont atteints.
Excellente question là aussi. En effet, on dit qu'il y a 3 femmes pour un homme, mais on s'interroge énormément sur le fait que peut-être les hommes sont prudes et que du coup, ces messieurs hésitent à aller consulter.
Comme pour beaucoup de choses.
Donc, messieurs, je vous en supplie, si vous avez des lésions à cet endroit-là, parlez de la maladie de Verneuil à votre médecin parce qu'il y a des gestes à faire et des traitements à prendre pour justement vous aider.
C'est vraiment handicapant pour un homme aussi. Il a fait toute cette vie sexuelle dans la famille. Pour lui, c'est un blocage à ce moment-là.
Je crois que dès qu'on est en âge d'avoir des relations sexuelles, évidemment, la localisation même de ces lésions, d'abord douloureuses, donc peuvent être un frein. Et par ailleurs aussi...
La honte, tout ce qu'on fait dire.
La honte. Et puis, vous savez, malheureusement, avec le temps, on a vu que tous les conjoints ne sont pas adorables aussi avec les malades. Et pour certains, ça amène à des ruptures de couple, ce qui est vraiment très dommage parce que quand on peut en parler, et à l'association, on essaye justement d'accompagner les couples dans ce genre d'aventure qui est malheureusement une aventure qui dure, bien sûr, puisque la maladie, on ne sait pas la guérir, mais on peut la mettre en rémission. C'est peut-être aussi une chose qui est importante à dire.
Il peut y avoir combien de rémissions, pendant des mois, on peut une rémission.
On peut avoir absolument, selon le stade. Donc, il y a les trois stades. Les stades légers ont des rémissions plus longues entre les crises, puisque c'est une maladie qui évolue par crise. Le stade 2 est un stade modéré, donc qui touche plusieurs zones, contrairement au stade 1 où c'est souvent une seule zone. Et là, les crises sont déjà plus rapprochées, les périodes de rémission plus courtes. Le stade 3, c'est en permanence. Tout le temps.
Mais on peut passer, on aura les trois stades au cours de sa vie
ou on n'est pas obligé.
S'arrêter au premier stade.
Là aussi, on peut très bien être au premier stade. Et si je peux rassurer aussi les gens, c'est que quand même, la majorité des malades, c'est-à-dire 75% des malades sont dans un stade léger. Donc, malgré tout, ça peut être, ça peut être rassurant. Et seulement 1% en stade très sévère.
Un stade léger, déjà, si on a détecté, si la maladie est reconnue, ils vont avoir des traitements quand même depuis
le début. Tous les cas, on va proposer un traitement, de toute façon. Il y a un traitement qui est proposé. Il y a aussi un accompagnement pour faire, par exemple, une détection de diabète qui accompagne souvent la maladie de Verneuil. On l'ignore assez souvent. Et comme le diabète, je pense à La Réunion, est quand même aussi un vrai fléau sur notre département, c'est important aussi de faire une vérification, parce qu'on n'est pas obligé de le savoir, mais en traitant un diabète pour les stades légers, on peut améliorer, voire mettre en rémission la maladie de Verneuil.
Ce qui veut dire que les diabétiques sont plus sujets à ça ?
Non, je dirais qu'il y a une corrélation entre les deux maladies, mais je ne pense pas qu'ils soient plus sujets. Disons qu'on a constaté qu'en traitant par exemple un diabète, on pouvait en effet améliorer une maladie de Verneuil.
Nous habitons La Réunion, nous sommes sous le soleil tout le temps. Est-ce que le soleil joue un rôle ?
Alors, le soleil, contrairement à l'acné, où on sait que l'acné, par exemple, est améliorée par le soleil, Verneuil déjà est dans des zones qu'on met rarement au soleil. Donc déjà, ça n'a pas une influence véritable. En revanche, la chaleur, l'humidité peuvent en avoir.
Ça, dans un sens positif ou négatif ?
Négatif, malheureusement, puisque en fait, ça favorise la macération.
Oui, parce que c'est dans les plis.
Voilà, c'est dans les plis. Donc c'est pour ça aussi qu'on dit que, par exemple, le fait de perdre du poids va améliorer, parce qu'évidemment, tout ce qui replie va entraîner une macération. Mais en aucun cas, l'obésité, par exemple, souvent on en parle, n'est en cause.
Alors, le temps passe très très vite. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme aide médicale ? Est-ce qu'on peut s'en sortir quand même ? Comment vivre au quotidien aussi ?
Alors oui, rassurez-vous, on peut absolument avoir une prise en charge médicale. Ça repose souvent par des antibiotiques qu'on doit adapter à chacun. Et c'est pour ça qu'on a des professionnels, y compris à La Réunion, vraiment, mais très pointus dans le domaine de la maladie de Verneuil. Il ne faut pas hésiter à nous contacter pour qu'on on vous dirige vers eux. Ce sont donc des fois des tri-antibiothérapies que l'on prend de façon assez conséquente. C'est pas...
Trois
antibiotiques à la fois à haute dose.
À haute dose pendant des mois ?
Des fois à vie.
Voilà. Ça
peut être dur à supporter, mais en même temps, voilà. Donc, mais c'est vraiment pour les cas les plus sévères. Ensuite, il peut y avoir aussi ce qu'on appelle des traitements dans les cas les plus lourds par anti-TNF-alpha. Donc, ce sont des traitements, en fait, qui vous provoquent une certaine immunodéficience, on va dire. Donc, du coup, vous êtes moins réactif, justement, parce qu'en fait, la maladie de Verneuil, on serait presque trop réactif à nos propres bactéries. Voilà. En gros, pour la résumer, c'est on a tous des bactéries sur le dessus de la peau. Les nôtres, dans le cas de la maladie de Verneuil, sont trop agressives. Voilà. Donc, c'est pour calmer le jeu. Et enfin, le dernier point, c'est la chirurgie, qui est donc une chirurgie qui peut être vraiment lourde et invalidante, suivie de greffe.
Chaque abcès, il faudrait l'inciser ?
Oui, puisque c'est cette coque dont je vous parlais au début de l'émission qu'il faut retirer. Voilà. Tant qu'on ne retire pas la coque, en fait, c'est comme un bâton de baudruche que vous auriez sous la peau qui est prêt à se regonfler à tout moment.
Oui, mais ça va bien au début. Mais après, quand il y en a partout, on ne peut pas le faire.
Et si on fait des zones très très larges, avec des exérèses larges, suivies de greffe, et ça donne des interventions très lourdes. Très lourde, en effet. C'est pour ça qu'il faut réagir rapidement et s'interroger, aller voir son médecin pour être pris en charge le plus vite possible.
Par rapport à la métropole, à La Réunion, on en a plus ou moins ?
D'après les médecins, donc experts dont je vous parlais, il est probable que nous soyons un petit peu au-dessus des normes.
Alors,
sur la métropole.
Donc faire attention au poids, à la chaleur, à tout ça, ça joue un rôle.
La chaleur, oui, enfin bon, je dirais que,
ça
vous savez,
faire,
on a des Inuits qui sont atteints, puisque moi je travaille au niveau mondial, donc le climat ne joue pas grand-chose. Il faut juste faire en sorte d'éviter de la macération. Après un bain, par exemple, un petit conseil, séchez-vous avec un sèche-cheveux, bien, pour que tous les plis soient bien secs. Et ça aide, et porter du coton.
Ça parle pour tout le monde, ça.
Pour tout le monde,
c'est vrai.
Votre association, qui est l'AFRH, Association française pour la recherche sur l'hydrosalernite, c'est comme ça que
Adénite,
ça
s'appelle. Oui.
Adénite. Vous êtes basée où et qui peut venir vous voir? Y a-t-il un numéro de téléphone? Comment vous joindre?
D'accord. Donc oui, notre association est basée maintenant, son siège social, à Saint-Benoît. Donc elle est chez nous. Les gens peuvent nous contacter. Il y a un numéro de téléphone. Je ne sais pas si je peux le donner ou non.
Oui, bien sûr. Oui.
Donc, c'est le 0262 51 80 65. Et enfin, nous avons... Je suis désolée. On a deux sites. Le premier, c'est afrh.fr. Et l'autre, c'est vaincre-verneuil.fr. Ces deux sites sont vraiment complémentaires l'un de l'autre. Vous y trouverez absolument toutes les informations. Et enfin, nous sommes sur tous les réseaux sociaux avec énormément de malades. On a un groupe AFRH 974 qui est très actif. Nous faisons des rencontres, nous faisions malheureusement rencontres pratiquement une fois par mois, mais on espère bien les reprendre rapidement. Et voilà. Et puis on prépare notre future journée mondiale du 6 juin. Juin violet, et j'aurai peut-être l'occasion de vous en reparler une autre fois.
Vous reviendrez, vous en parlez, voilà. Bien entendu, c'est très important. Alors, on a parlé de cette maladie, ça ne met pas en jeu le pronostic vital.
Absolument pas.
Il faut le dire.
Absolument pas. Pas pour la raison de la maladie de Verneuil. Malheureusement, on déplore beaucoup de suicides chez les adolescents parce qu'ils ne voient pas d'objectif, vu que c'est une maladie qu'on ne sait pas traiter. Et comme ils se sentent isolés, seuls, et ils ne savent pas à qui parler... Malheureusement, quelquefois, c'est le geste ultime et c'est dommage. Donc, c'est pour ça. Nous sommes là, nous vous accompagnons et nous vous attendons. Et on peut faire quelque chose, on peut s'en sortir. Surtout, contactez-nous.
Parce que pour les adultes osent peut-être plus facilement consulter, mais c'est très douloureux, c'est très gênant, c'est handicapant sur le plan aussi bien social que familial. C'est
exactement.
Ça
il faut que les parents n'hésitent pas et surtout qu'ils ne s'affolent pas. Leurs enfants n'ont rien fait. Et les enfants, parlez-en à vos parents. D'une manière, ados aussi, parlez-en à vos parents.
Est-ce que, par exemple, quand c'est dans un pli du cou ou autre, on peut mettre un pansement dessus?
Alors, le pli du cou, c'est surtout la nuque, par exemple, qui en a au niveau des cheveux. Mettre un pansement, quand il y a des poils, c'est pas évident, parce que,
Mais là, ça... tout le monde le voit?
Oui, mais c'est plus rare quand même, au niveau... Généralement, un Verneuil peut très bien cacher sa maladie. Voilà, puisque on met un t-shirt, on le cache. Derrière les oreilles, les gens ne vous regardent pas trop, et puis
vous nous avez dit que c'est quand même des abcès qui coulent.
Oui.
Donc la personne qui a doit être toujours inquiète de dire...
On a toujours sa trousse.
Je vais tâcher mes vêtements, ça sent pas bon.
Et ça, c'est absolument vrai. On se balade tous avec un t-shirt de rechange, des compresses dans le sac, des pansements, et on va aux toilettes, n'importe où, pour refaire son pansement et être propre.
Rappelez-nous votre numéro, il ne faut pas hésiter à prendre contact avec votre association.
Alors c'est le 0262 51 80 65.
Et bien sûr, ça reste anonyme.
Absolument, bien sûr.
Voilà, écoutez, on est tout à fait de cœur avec vous. Vous venez nous reparler de cette journée. Nous découvrons, comme beaucoup d'auditeurs, j'ai l'impression, cette maladie.
Merci de nous avoir permis d'en parler, en tout cas, parce que c'est très important.
Une personne sur 100, c'est-à-dire autour de nous, il y a une personne.
Vous connaissez tous quelqu'un.
Qui a ce problème-là, qui nous en a jamais parlé et qu'on ne peut pas aider.
Voilà, parce qu'ils n'osent pas.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous deux.
Madame Marie-France Brudapré.
Oui, Marie-France. Pas de souci.
Marie-France, qui est donc, vous êtes présidente de l'association, redites-nous le nom.
Alors, AFRH, Association française pour la recherche sur l'hydrosalernite.
Voilà, parce qu'on n'a pas parlé non plus que il y a un délai très important avant que la maladie soit reconnue. Donc, ça, vous nous en parlerez lors de la journée.
Absolument.
Merci beaucoup à vous d'être venus.
Merci.
Au revoir.
Bonne journée.
Et bonne journée à vous tous. Au revoir.